Salut Benny.
Salut Nico.
Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir Benjamin Benichou, artiste, designer, entrepreneur, pour cet épisode 73 de Comptoiria. Cette fois-ci, je vous ai dégoté une star de l'IA générative créative, mais pas que, sur les conseils d'Alix, qui m'a orienté vers toi. Après, j'avais déjà vu ton profil en vrai, parce que j'avais vu tes créations extraordinaires. Donc, on mettra les liens, on va essayer de représenter à la voix un petit peu ce que tu fais. Et voilà, donc il faut absolument que les gens aillent sur ton profil Instagram, qui est donc tout simplement Benny_drop. Mmh. Allez-y. Et Benjamin, donc tu es à Los Angeles, toi, depuis 10 ans. Tu es au cœur de Hollywood, tout ça. Donc, ça va être très intéressant parce que tu vas nous donner un petit peu ce point de vue de la comment vous percevez là-bas la révolution de l'IA générative. Et donc, pour commencer, Benjamin, que se passe-t-il en ce moment dans l'IA générative depuis quand? Depuis ChatGPT ou depuis avant, d'après toi?
Déjà, merci pour l'invitation sur le podcast. Donc, comme tu disais, ça fait 10 ans que je suis à Los Angeles, mais j'adore écouter des podcasts en français. Du coup, j'ai écouté pas mal des épisodes de Comptoiria ces dernières semaines pour voir un petit peu ce que vous proposez. Et donc, c'est toujours un plaisir d'avoir ce genre de conversation. En fait, pour mon expérience personnelle, l'IA, ça a vraiment commencé il y a un peu plus de 2 ans. Et effectivement, ChatGPT a été la première chose qui est sortie où je me suis dit, c'est quand même vachement intéressant. Comme je te le disais en off juste avant, on a une boîte drop dans le conversational marketing. Et du coup, avoir cette possibilité d'avoir une vraie conversation chatbot, intelligente ou pas intelligente, mais en tout cas une belle expérience conversationnelle. C'est un petit peu ça qui a piqué ma curiosité au début. Et au même moment, en fait, la sortie de DALL-E, qui était, je pense, parmi en fait les premières solutions avec lesquelles on pouvait jouer. Et en fait, un peu comme tout le monde, je pense il y a 2 ans, quand DALL-E est sorti, comme j'ai un background de créatif, je me suis dit, j'ai envie de tester et de faire un prompt et voir ce que ça va générer. Comme la plupart des gens, j'ai essayé de faire mon chien qui surfait une banane à Malibu, juste pour voir ce que ça donnait.
C'est parce que tu es basé à LA.
Exactement, c'est les inspirations. mais pour le coup, c'était d'un côté impressionnant, mais un petit peu gimmick aussi quand même à l'époque. Tu vois, parce qu'on se disait, ok, c'est marrant, c'est impressionnant qu'à partir d'un prompt, ça génère une image. Mais j'avais du mal à me dire qu'il y aurait genre une vraie application, soit artistique, soit marketing, de l'usage. Et après ça, Midjourney est arrivé. Et pareil, j'ai fait une présentation il y a quelques semaines où j'ai montré un petit peu l'évolution de Midjourney 1 jusqu'à où on en est aujourd'hui et la vitesse à laquelle ça a évolué. Mais c'est pareil, même si à l'époque, les modèles n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, c'était quand même un truc où je me suis dit, ouais, c'est vachement impressionnant. Et ce qui m'a tout de suite plu dans Midjourney, c'était aussi le fait que c'était sur Discord. Il y avait un côté communauté. Donc, je pense que ça a créé une barrière à l'entrée au début. Mais il y avait aussi ce truc de si tu es un petit peu curieux, tu rejoins le Discord, tu vas voir comment les gens font des prompts et les types d'images qu'ils peuvent générer. Et en fait, c'est ça qui pousse un petit peu à tomber dedans, j'ai envie de dire. Et pour moi, comme je te le disais, j'ai une expérience avant de faire drop côté agence créative. Donc, j'ai bossé sur des campagnes pour Nike, pour Adidas, pour ASICS. Et donc, j'ai toujours été un créatif. J'ai fait des études de design et jusqu'à récemment, je suis passé côté tech entrepreneur. Et en fait, j'étais à un moment dans ma carrière où je ne veux pas dire que l'IA m'a sauvé, mais j'avais plus du tout le temps en fait de créer des choses et de m'inspirer moi-même avec du contenu. Et en fait, l'IA m'a permis vraiment d'avoir un outlet où en très peu de temps, je pouvais tester des choses, générer du contenu, le partager. Et je pense que ce qui a fait la différence sur les réseaux LinkedIn d'abord et aujourd'hui Instagram, c'était vraiment le fait que j'essayais de faire des images où quand tu les vois, tu as du mal à te dire que ça a été fait avec de l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est toujours le plus beau compliment quand quelqu'un te dit « mais j'y crois pas, c'est pas possible que tu aies fait ça avec Midjourney ou avec Stable Diffusion ». Du coup, c'est un peu la barre que j'essaye de me fixer à moi-même, toujours pousser plus loin parce que ça évolue hyper vite. Donc en fait, ce qui est impressionnant aujourd'hui ne sera sûrement plus dans 2 mois. Du coup, il faut constamment se réinventer, essayer de suivre les nouvelles tendances.
Non, mais attends, mais c'est génial. Ce que tu dis là, je trouve ça très intéressant. Le fait que toi, en fait, tu avais plus le temps de faire de la créa, en fait, alors que tu as cette formation, et que là, avec l'IA générative, et ben, tu peux t'y remettre. Ça, c'est marrant, parce que toi, moi, personnellement, pour le coup, j'ai jamais eu. Moi, je n'ai pas cette compétence technique, donc je ne savais pas le faire. Et moi, l'IA générative me permet aujourd'hui de m'exprimer, tu vois, d'une manière visuelle, et j'arrive pas forcément au même résultat que toi, mais tu vois, donc c'est un niveau différent. Et ce que tu décris, toi, donc je trouve ça aussi très intéressant sur cette accélération, ce gain de temps. Bénice, j'ai envie 2 secondes qu'on parle de ton compte Instagram. On fait le truc un petit peu dans le désordre, mais je me rends compte que je ne l'avais pas remonté, je ne l'avais pas scrollé jusqu'au bout, jusqu'en bas, même si je l'avais déjà regardé plusieurs fois. Et en fait, je vois que la première photo que j'ai sous les yeux, c'est celle d'une boutique Nike. La boutique Nike, genre à Tokyo, une boutique Nike japonisante. Et cette photo-là, je m'en souviens très. Je ne savais pas que c'était toi qui l'avais faite, je m'en souviens très très bien. C'était un carton, ça, c'était magnifique.
Bah oui, ça a été le premier, du moins, honnêtement, le premier buzz
Il y a
LinkedIn, je pense,
69
sur.
semaines, il y a 69 semaines, tu vois, oui, donc ce qui veut dire, allez, enfin, début 2023, ouais, trop bien.
Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pendant les fêtes, en fait, le break des fêtes 2022, qui était un peu le seul moment pour nous où vraiment les choses se calment. Donc, en général, il y a énorme pic d'activité avec les Black Friday, Cyber Monday, toute cette période-là. Et en général, les fêtes de fin d'année, même s'il y a toujours du business pour le e-commerce, c'est quand même un moment où tout le monde prend des vacances, tout le monde essaie de relaxer un petit peu. Et en fait, ça a été vraiment le même moment où j'avais fait des petits tests avant et je me suis mis mi-journée. Donc, j'étais sur mon téléphone et je geekais à un niveau qui n'était pas possible. C'est-à-dire
T'as
ma
fait ça
conjointe,
au téléphone?
ouais, au
Oh
téléphone,
là là.
Discord, dans mon lit. Et je
Oh
pense
là
que
là.
j'avais l'impression
Non,
que j'avais
non, mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable.
j'avais 16 ans de nouveau. Où ma femme, qui est ma conjointe de longue date, hein, qui
Ouais.
se retournait à 4 h du matin et me disait, mais qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Et du coup, j'étais vraiment le mec relou pendant tous les dîners de famille et tout ça, ou avec les amis pendant cette période, où en fait, mon seul sujet de conversation, c'était ça. Je sortais mon téléphone et je leur montrais, mais vous réalisez ce que je suis capable de faire? Et ça a été un peu le premier truc où forcément, nos amis, c'est quand même un groupe où ils sont soit entrepreneurs, soit créa. Ben, c'est les gens où je pensais que, bah, comme moi, ils allaient tout de suite absorbés par l'histoire. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait quand même cette espèce de rejet quasiment automatique de oh, Benny, tu vois, c'est cool ce que tu fais, mais franchement, genre, tu vois, trouve-toi une vie ou fais des choses un peu sérieux. Et je ne comprenais pas. En
Ah
vrai,
ouais.
pendant les premiers mois, je me disais, mais ce n'est pas possible. Moi, encore une fois, je suis créa et c'est juste genre une révolution incroyable. Et je me disais, tout le
Non.
monde va sauter là-dessus, tout le monde va s'y intéresser. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi ces 2 dernières années, c'est que la technologie avance hyper vite et ça fait les headlines dans la presse et ce genre de choses. Mais en fait, côté adoption concrète auprès des marques ou même des créatifs et des artistes, bah, en fait, ça va beaucoup plus lentement que ce que j'avais imaginé il y a 2 ans, où pour moi, c'était, bon, bah, dans 6 mois, en fait, l'histoire, elle est pliée. Tout le monde sera capable de faire des Impossible Store ou des armures samouraï de ce niveau-là. Et en
Non,
fait, bah,
mais...
pas vraiment, ça prend un peu plus de temps. Et alors, quand on regarde côté marque, c'est des process qui, à mon avis, c'est plutôt une transformation qui va être de l'ordre de 5 à 10 ans, plutôt que ce qui est annoncé tout le temps comme, bah, voilà, on en parlait de Hollywood et ce genre d'annonce de ça y est, demain, tous les acteurs vont être au chômage et du coup, il faut aller protester. Je pense que c'est des choses qui vont se passer et ça va avoir un vrai impact sur notre société. Mais encore une fois, il y a quelques années devant nous, je pense, avant que les choses se déroulent concrètement.
Ah ouais, bien sûr. Je comprends très bien ce que tu dis. Moi, je considère que j'ai eu une chance aussi, parce que moi, j'étais un peu dans la crypto, dans les NFT, donc j'étais sur Discord aussi au final. Et c'est peut-être ça aussi, tu vois, qui m'a permis, moi, de m'y mettre aussi très vite. Je trouve ça complètement dingue ce que tu dis, que tu le fais sur ton téléphone, parce que moi, c'est pas mon usage. Moi, sur Midjourney, je le fais vraiment sur mon ordi. Donc ça, déjà, ça me fait beaucoup réfléchir. Je veux continuer un tout petit peu à remonter ton compte Instagram. Donc, il y a des pépites, des choses magnifiques. Ensuite, après, je vais très très vite, hein, mais tout le monde aura le loisir de scroller et franchement, c'est l'éclate. Ce qui m'a vraiment fait réagir après, pour moi, c'était ton inspiration, Gucci. Donc, sur le Made by AI, on voit des samouraïs qui sont plutôt de couleur rose et qui, moi, qui me faisait penser Gucci, ça me faisait penser un peu à Kenzo, mais c'est Gucci. Et ensuite, et avec des images qui sont animées. Et ça, je l'ai vu passer sur LinkedIn. Et quand j'ai vu cette animation là, de tes images, c'est la première fois que je voyais ça. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce truc encore? C'est ouf.
Merci. Bah oui, en fait, l'histoire, c'est pareil. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, effectivement, je faisais différents concepts, je postais pas mal de choses. Et d'ailleurs, si tu remontes dans mon feed, tu vas voir qu'il y a des concept stores Louis Vuitton, il y a un Cybertruck Nike. Donc, en fait, je testais différentes choses, mais toujours avec cette idée de, bah, je veux sortir des images qui soient impressionnantes et inspirantes. Et je veux essayer d'utiliser l'IA pour combiner des choses qui n'ont pas trop de sens entre elles. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est assez intéressant et c'est un peu tout ce débat sur est-ce que l'intelligence artificielle permet de créer des choses nouvelles ou est-ce que c'est juste une énorme base de données qui va reprendre des images existantes et les régurgiter. En fait, l'idée, c'était de montrer, ben, en fait, si tu prends, donc, je suis un geek, j'ai grandi avec Dragon Ball Z, avec Ken le Survivant, j'ai toujours été fan du Japon et des samouraïs et ce genre de choses.
J'ai l'impression qu'on est de la même génération, Benny.
Bah oui, je pense, 85.
Ah, 80, je suis beaucoup plus vieux que toi.
Bon, ben, ça va, oui, mais j'ai une sœur aînée qui est née dans les années 80. Du coup, je considère toujours que son influence a eu beaucoup d'impact sur moi. Mais le truc qui est hyper intéressant, c'était de se dire, OK, bon, armure de samouraï, encore une fois, si aujourd'hui tu vas sur Google et tu tapes genre armure de samouraï avec des fleurs, tu ne vas pas trouver grand-chose, ou peut-être des DeviantArt avec des illustrations et ce genre de choses, mais pas les images comme celles que j'ai pu générer. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, je vais prendre ça comme une plateforme. Et je vais essayer de le combiner. Alors, au début, c'était avec des ADN de marque. Donc, de dire comment j'arrive à faire des choses où, bah, alors, tu dis Kenzo plus que Gucci. Je trouve ça hyper intéressant. Mais pour le coup, c'est comment tu arrives à mixer bah, le modèle, l'identité de la marque, des références de design et avoir, malgré tout, une armure de samouraï qui make sense, même si j'ai fait des armures en porcelaine après qui n'ont pas trop de logique. Et en fait, ça a été la première étape. Et en fait, après, quand j'ai réfléchi à, OK, pour que ça marche sur les réseaux sociaux, parce que j'avais déjà eu un petit buzz sur LinkedIn, mais je me suis dit, sur Instagram, il faut faire des reels, il faut faire du motion. Ça, c'est mon background marketing. Et donc, je savais que poster des images statiques, ça allait marcher, mais ça n'allait pas permettre de faire décoller comme ça a décollé ces derniers mois. Et donc là, bah, j'ai regardé tout ce qui existait un petit peu en solution pour faire de la vidéo avec de l'AI. Tout le monde utilisait Runway. Et je pense que ça marchait, mais encore une fois, c'est difficilement contrôlable. Il y a un peu des problèmes. Et en fait, ça cassait le côté très slick et hyper réaliste de mes images. J'ai testé Stable Diffusion Video. Du moins, j'ai testé différents outils. Et quand je suis tombé sur l'EIAPix, en fait, ce qui était hyper puissant avec l'EIAPix, c'est que c'est très simple d'utilisation. Tu as un peu moins de possibilités, mais en fait, tu es quand même capable de prendre ton image, créer une depth map, donc de créer de la profondeur avec l'AI dans ton visuel et après avoir un contrôle sur le mouvement de la caméra. Et donc, en fait, j'ai utilisé ça pour dire, bah, je prends mon image de samouraï, mon close-up, du moins, ces choses-là, et je vais faire un zoom à l'intérieur, un tout petit mouvement. Et en fait, l'avantage de l'EIAPix, c'est qu'on peut exporter en 4K les vidéos qui sont générées.
Bien sûr.
Vraiment là. Et sur le sujet Instagram, les Reels, en fait, c'est devenu viral parce que je pense que tu es en train de scroller dans du contenu qui ça commence à tourner un peu en rond, les feeds d'Instagram aujourd'hui. Et en fait, là, tu te prends une armure de samouraï avec cette impression que ça va sortir presque de ton téléphone. C'est là où ça a cartonné.
Totalement béni. Quand je l'ai vu, ensuite, après, je l'ai vu. Grâce à toi, je suis allé essayer la solution. Et en effet, c'est exactement l'impression que j'avais. Tu as l'impression que ça sort de l'écran, tu as l'impression que ça sort de ton téléphone. C'est un truc de fou. Et très intéressant ce que tu dis là aussi, parce que oui, on voit très bien, Runway et Pika n'existaient même pas encore à ce moment-là. Il y avait quand même une difficulté sur le contrôle. Et on perdait un petit peu de la magie, de la qualité qu'on pouvait avoir. Ensuite, après, tu as fait de la porcelaine. Et après, je m'en arrivais. Ah oui, c'est magnifique, tes porcelaines là. le serpent et l'avion, là, la 380 peut-être, je l'avais vu. Et après, franchement, peut-être moi, mon préféré, même si c'est, donc ça, tu l'appelles Introducing Luminous Legacy. Et là, c'est des samouraïs turquoises avec des détails, des diamants, des pierres précieuses de partout. Ça, écoute, ça, je l'ai montré à ma femme. Je lui ai fait, regarde, je le montre autour de moi. Je montre autour de moi, les gens me disent à chaque fois, waouh, qu'est-ce que c'est ? Enfin, là, tu vois, en fait, les gens ne savent même pas est-ce que c'est de l'IA générative ou pas. Ou autre. Enfin, c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce missile ?
Oui. Eh ben, merci beaucoup. Et c'est une de mes préférées aussi. Et pour la petite anecdote, l'algorithme a un peu joué avec mes émotions sur celui-là parce que il a mis un petit moment avant de décoller. Donc, j'avais tous mes reels qui partaient très fort. Et celui-là, il restait un peu bloqué. Et du coup, je me suis dit, ah merde, est-ce que j'ai atteint un petit peu les limites? Alors que vraiment, cette série, en fait, c'est la première image, je trouve qu'elle est folle.
Oui,
les diamants et tout ça. Et, et la deuxième avec l'archer samouraï, c'est pareil, c'était un peu la première fois que je commençais à sortir des poses traditionnelles. Et effectivement, s'il y a des gens de chez Tiffany qui nous écoutent, c'était la grosse inspiration derrière. Et c'est pareil, c'était montrer le luxe, comment on arrive à faire de l'hyperluxe, comment on arrive à inspirer les gens. Et pour moi, encore une fois, rester sur le même sujet, mais essayer quand même de réinventer à chaque nouvelle itération.
Béni, j'ai pensé, alors là tu vois, autant tout à l'heure on était sur Gucci, Kenzo, ça pour le coup il n'y a pas de doute, moi j'ai pensé immédiatement Tiffany's, ça c'est
bah
sûr.
Bah oui, c'est trop
on m'a dit qu'il y a certains des enfants de Bernard Arnault qui écoutaient le podcast, donc si jamais Alexandre Arnault écoute le podcast, alors là je lui recommande de te conseiller, de te contacter. Surtout que là je viens de voir une villa je crois à Los Angeles qu'ils ont créé là, enfin habillé en tout cas aux couleurs de Tiffany's pour des événements de marque. C'était, je trouve ça magnifique. Mais là, ce que tu as fait, c'est fabuleux, franchement.
Merci beaucoup.
Béni, alors bon, on a dérivé un petit peu, mais il fallait absolument pour nos auditeurs en tout cas qui puissent vraiment entendre ce que tu fais, qui scrollent aussi donc ton Instagram. Maintenant, revenons un petit peu plus sur nos questions basiques là pour avancer. Donc, le tool IA que tu utilises le plus toi dans ton quotidien, c'est quoi ?
Donc, comme je disais au début, Midjourney, c'est mon premier amour. Et je pense que, voilà, et je ne suis pas sponsorisé par Midjourney. C'est vraiment, c'est là où tout a un petit peu commencé. Et aujourd'hui, ça fait partie, on va dire, intégrante de mon process. Mais encore une fois, ce que les gens réalisent pas, c'est que c'est pas juste un prompt et Midjourney. Mais aujourd'hui, j'ai un process avec plusieurs outils. Qui intègre des outils avec de l'IA, donc Midjourney, Stable Diffusion, mais aussi Photoshop pour retoucher mes images, beaucoup les features d'IA de Photoshop quand j'ai besoin de régler des choses assez rapidement. Et derrière, la partie upscale et amélioration des images, donc avec Magnify ou Créa avec un K, qui sont deux outils qui ont un petit peu changé parce que jusqu'alors, il y avait des outils qui permettaient juste d'augmenter la résolution. Et eux, en fait, ils ont vraiment introduit la notion de enhancement qui fait que s'il y a la peau d'un modèle, en fait, ça va retravailler la texture, ça va régler les yeux, du moins toutes ces choses-là. Et donc, en fait, il y a plusieurs outils jusqu'à des Leiapix et d'autres outils pour animer derrière. Mais donc, voilà, j'ai vraiment un workflow qui est complet et qui, je pense, aujourd'hui, me permet de répondre à pas mal de use cases et tester différentes choses. Je ne partage pas tout, parce qu'en fait, comme tu le disais, tu vois, il y a un standard sur la qualité des choses que je veux poster. Du coup, il y a plein d'expérimentations que je fais sur comment tu prends des images 2D pour les rendre en 3D. C'est des choses où la technologie n'est pas prête aujourd'hui. Je teste avec, c'est hyper intéressant, mais pour le coup, ça n'a pas trop de place dans mes contenus Instagram. Parce que justement, j'essaye de pas faire des posts juste en mode regardez l'IA, c'est cool, on peut faire ça, c'est impressionnant, mais c'est pas non plus ouf aujourd'hui. Et de vraiment rester sur je veux faire de l'art avec la technologie et l'intelligence artificielle, et j'attends que les technologies soient prêtes avant de vraiment pouvoir partager ça sur les réseaux.
Bien sûr. Sur cette Luminous Legacy, là, donc en effet, sur la première guerrière, la première samouraï, il y a un truc qui me bluffe, moi, c'est les, Donc, sur les pierres précieuses, c'est les... à quel point ça scintille, ça brille, ça c'est un truc de dingue.
Ah oui, et ça, pour, du moins, encore une fois, ça fait partie des heureux accidents, on va dire. C'est en vrai, sur toute l'image de la série, je fais pas des changements de ouf sur mes prompts d'une image à l'autre, mais c'est vrai que sur celle-là, comme je savais que bah, c'était des diamants et ce qui m'intéressait, c'était la réflexion, eh ben, j'ai pas mal itérate sur, bah, alors pour ceux qui utilisent Midjourney, on parle des tokens dans les prompts, mais sur cette notion de bah, comment j'arrivais à pousser le curseur sur la réflexion, sur le côté irradiant de l'image, les détails et ce genre de choses, et essayer de voir où je le positionne dans mon prompt, le poids que je lui donne, juste capable de générer quelque chose où je voulais que l'image éblouisse, entre guillemets, les personnes qui allaient le voir dans leur feed Instagram.
Parce que souvent on dit, tu sais, enfin, bon, tu peux générer une image sur Midjourney en 2 minutes, quoi, mais enfin même en 30 secondes. Mais par contre, pour être un vrai pro de Midjourney, enfin, en fait, ça demande aussi d'être un peu un photographe Midjourney. De temps en temps, tu en as qui utilisent des références, par exemple, d'appareils photo, de films, de pellicules, tu vois. Et ça me fait penser un petit peu au travail que tu fais là, tu vois, sur l'éclairage, sur la brillance, le côté irradiant dont tu parles, quoi.
Bah oui, c'est vraiment important. En fait, c'est toujours le. Donc, il y a plusieurs sujets. C'est un point, on peut en parler pendant toute l'heure du podcast, je pense. Mais le truc qui est assez intéressant, c'est effectivement. Tout le monde peut faire un prompt en 5 secondes et générer une image en 10 secondes. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, derrière, encore une fois, si tu veux avoir du contrôle sur tes images, créer genre un vrai storytelling, une histoire et tout ça, d'une part, bah, la personne qui prompte doit effectivement avoir les références qu'il faut, le vocabulaire qu'il faut. Parce que pour le coup, si tu ne sais pas que bah, tu veux utiliser tel type d'objectif pour avoir tel rendu dans ton image, bah, ça va pas fonctionner forcément. Donc ça, c'est un premier point que bah, la majorité des contenus qu'on voit sortir, je pense qu'on a passé l'étape de c'est impressionnant parce que c'est un prompt qui génère une image. Là, maintenant, le game, c'est OK, très bien, tout le monde peut le faire. Comme on est capable de faire du contenu de qualité, avoir du storytelling, de la même manière que si bah, j'étais encore creative director, on va dire à l'ancienne, et je vais bosser avec des designers, des photographes, un set et ce genre de choses. Et après, effectivement, c'est tout le, on va dire tout le workflow et tout le process derrière. Et en vrai, quand les gens me demandent combien de temps tu mets pour faire une image, bah, je vais pas demander 10 secondes pour faire une image. Mais par contre, combien de temps je mets pour faire un reel, bah, en général, c'est plutôt, on va dire, de bout en blanc, sans compter le temps que je passe dans mon lit sur mon téléphone. On va dire l'équivalent d'une journée. Et parce que, ben, il y a, je teste une idée, sur les idées que je teste, ça va marcher ou pas. Quand j'ai trouvé une idée que j'aime bien, bah, du coup, je vais essayer de la pousser, donc générer plus d'images, pardon, faire la curation, faire les edits derrière. Et puis derrière, bah, il faut réfléchir au storytelling du reel. Alors oui, c'est des formats de 6-7 secondes, mais quand même, vu qu'on affiche chaque image, on va dire une demi-seconde, donc il y a tout ce taf-là, je prépare, ça passe dans les Yapix, je fais l'edit, je choisis la musique et j'ai un contenu. Et donc oui, si je devais prendre l'exemple samouraï avec les diamants. Si on devait imaginer demain que Tiffany fait appel à une agence traditionnelle pour créer cette campagne, bah, en termes de coûts et de temps, ce serait exponentiel parce que bah, il faudrait fabriquer l'armure, il faudrait avoir le modèle, il faudrait créer le photoshoot, il faudrait faire tout ce process-là de brief jusqu'à arriver à la création finale. Et donc, effectivement, ça donne le tournis quand on se dit que bah, moi, potentiellement, je fais ça en 24 ou 48 heures. Attention, ça ne veut pas dire que si Tiffany m'appelle demain, je fais en 24 ou 48 heures une campagne, mais c'est juste pour donner du moins oui, l'efficacité des choses et l'impact que ça a dans n'importe quel process créatif aujourd'hui, de se dire, bah, je suis capable de générer déjà plein d'images pour guider mon client, là où avant, bah, on faisait des références et des moodboards avec Pinterest via des Google Search. On montrait à un client Adidas, on lui montrait des refs Nike. Du coup, le danger, c'était toujours bah, le client qui dit OK, je veux ça. On dit bah, non, non, on n'est pas en train de dire qu'on va refaire un projet Nike ou une campagne Nike, c'est juste des références. Et donc, en général, il y avait toujours ce problème, et ça, j'en parle de mon expérience côté agence, où on arrive avec un pitch, un concept, et puis après, derrière, il y a l'exécution, et puis au fur et à mesure, en fait, il y a de la distance qui se crée entre l'idée de base et ce qu'on allait livrer. Et là, je pense que c'est une des plus grosses révolutions. C'est vraiment de se dire, en tout cas, moi, sur les quelques projets que je prends aujourd'hui où je bosse avec des clients, c'est je leur dis, mais step numéro un, c'est idéation. On va générer plein de pistes créatives, plein d'images. On va se mettre d'accord sur ça. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord, le challenge derrière, c'est être capable de livrer toujours avec l'IA la campagne finalisée et avoir le contrôle qu'il faut pour s'assurer que le client valide ce qui a été généré.
C'est génial. Là, sur, en l'occurrence, sur du Tiffany, je vois que tu as eu... Enfin, il y a un des effets, au-delà de la couleur bien reconnaissable turquoise, c'est que tu as eu l'intelligence de mettre toutes ces pierres précieuses, justement, avec les reflets dont je parlais. Je trouve qu'il y a un truc... Donc, ça me fait marrer. Donc, enfin, je me permets de te poser la question. Donc, on travaille entre un peu cette pierre précieuse et le samouraï. Et tu en parlais tout à l'heure, très rapidement, où la porcelaine... et le samouraï, oui. On peut voir une espèce de, peut-être de fragilité de côté guerrier, de l'autre côté, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une démarche là-dedans?
Ben, tout à fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de mixer des choses qui n'ont pas trop de sens. Et le mix porcelaine chinoise avec armure de samouraï, qui est le reel qui a fait genre plus de 12 millions de vues aujourd'hui, je pense que non seulement c'était un exercice intéressant, mais je savais aussi que c'était un vrai sujet polarisant et pour plusieurs niveaux. Forcément, il y a des gens qui se disent « Attention, Benny, la Chine et le Japon, mélanger les deux ensemble, tu vois, tu joues avec le feu. » Mais pareil, en fait, genre, du moins, j'ai envie de dire à tout le monde « Pourquoi ?» Tu vois, genre, du moins, pas « Pourquoi ?» Je comprends « Pourquoi ?» mais d'un autre côté, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est utiliser l'IA pour mélanger les choses qui ne devraient pas être mélangées. Et après, il y avait le côté porcelaine fragilité. Pareil, pas trop de logique et je pense complètement, comment on dit, impractical en français. Je fais des Jean-Claude Van Damme maintenant de temps en temps. Mais du coup, ça n'a pas de sens d'avoir une armure en porcelaine. Ça doit être très lourd, très fragile. Du coup, ça, c'était un autre point aussi où les gens engageaient beaucoup. Et quelque chose que j'ai découvert, et je ne me rappelle plus de la ref, mais apparemment, il y a une bouteille de tequila très connue. Ouais. Qui est en porcelaine comme ça, avec un graphisme bleu. Et en fait, pareil, je voyais beaucoup de gens qui commentaient sur le reel si cette marque de tequila faisait une armure de samouraï. Et donc, je pense que ça, c'est tous ces ingrédients, encore une fois, qui, visuellement, c'est beau, c'est engageant. Mais en plus, il y a un vrai concept. Du coup, ça fait engager. Et en fait, derrière le côté diamant, pierre précieuse, c'était prendre un petit peu le contre-pied. C'est-à-dire, le diamant, c'est... pareil, impossible, je pense, ou très cher, très compliqué de faire une armure de samouraï avec des vraies pierres précieuses, mais ça reste le matériau le plus solide au monde. Du coup, est-ce qu'un samouraï qui porte une armure comme ça, s'il prend un coup d'épée, est-ce que ça reste l'épée ou pas? C'est des choses à tester et voir si ça reste une hallucination dans l'esprit de Benny ou si c'est quelque chose qui pourrait exister dans la vraie vie.
Je pense qu'il peut, briser une glace, une vitre avec ses diamants en tout cas.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il y en a certainement pour plusieurs millions d'euros de diamants sur une armure. Trop cool, Benny. Est-ce que tu as un usage secret ou un usage hyper pratique à nous révéler? Sachant que je sais que tu as ta cuisine, tes secrets, mais un petit truc. Et ça peut être sur ChatGPT aussi, hein, tout outil de IA générative.
Oui. En fait, comme je disais, on va dire les secrets pas trop gardés ou sur lesquels je suis très public, c'est utiliser des outils comme les YAPIX pour la partie. Utiliser Magnifique pour l'amélioration des images. Alors, le seul problème avec Magnifique, c'est que c'est quand même assez coûteux comme solution. C'est un système de crédit par amélioration d'image. En fait, quand on produit beaucoup en tant que hobby, on va dire, ça peut coûter très cher. Et en fait, quand il y a goûté, c'est un peu dur de présenter à qui que ce soit une image qui n'a pas été améliorée par Magnifique.
Donc, mais toi, tu vas en x4, x8.
Exactement, ça coûte cher très vite.
Magnifique, moi, ça a changé ma vie de créateur, hein, tu vois, parce que...
Oui, c'est fou.
Moi, ça a rendu les trucs que je faisais sur Midjourney, ça les a rendus à mes yeux beaux, quoi, tu vois. Enfin,
exactement.
Et ça, pour moi, ça a tout changé. Mm-hmm. Et c'est vrai, et je pense qu'il y a une belle opposition. L'EIAPIX, il est très accessible, je trouve, financièrement. Et alors que Magnifique, c'est plus cher, ouais, tout à fait.
Oui, et puis dans le process, encore une fois, l'EIAPIX, tu vas l'utiliser vraiment en bout de chaîne. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as les images que tu aimes bien, tu vas en sélectionner 5-6 que tu vas augmenter avec les YAPIX. Là où sur Magnify, pareil, maintenant j'essaye de me maîtriser un peu, c'est-à-dire que je génère beaucoup d'images et je vais choisir mon top 10-15 avant de les passer dans Magnify. Mais c'est vrai que c'est toujours très très tentant, surtout quand tu fais des expérimentations en ce moment. Alors voilà, un secret, quelque chose qui est moins visible et qui pour le coup, pareil, pour moi, est inévitable si on veut être sérieux sur ces sujets-là de AI générative pour la partie créative, c'est utiliser Stable Diffusion. Et en fait, Stable Diffusion, alors même si les modèles évoluent très vite, j'utilise moins pour créer mes images de base, mais par contre, je l'utilise sur toute la partie control net, et c'est-à-dire en fait pouvoir faire du deepfake, avoir du contrôle sur le modèle, entraîner des mini-modèles sur des personnages ou des personnalités ou des objets. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est beaucoup moins accessible que Midjourney et que les autres plateformes. J'ai dû me faire un setup j'ai un PC de gamer avec une énorme carte Nvidia pour le faire tourner en local. Il y a des solutions dans le cloud que je teste là, notamment parce que j'ai lancé une formation en ligne et du coup, tout le monde n'a pas un PC chez soi avec une énorme carte Nvidia. Donc, j'ai testé pas mal de choses en ligne. Ça marche bien, mais c'est extrêmement lent. Et du coup, c'est un petit peu démotivant quand tu as l'habitude maintenant de faire un prompt dans Midjourney, d'avoir ton image qui sort tout de suite. Mais Stable Diffusion, c'est vraiment pour moi le next level. Là, je bosse sur des projets, je ne peux pas trop en parler publiquement encore aujourd'hui, mais ça implique en fait faire des contenus de campagne avec des personnalités connues qui valident, c'est on va dire des athlètes, pour pas tout spoil. Et du coup, en fait, sans un process Stable Diffusion de pouvoir intégrer la personnalité des athlètes et ce genre de choses, avec Midjourney, on sait qu'on pourrait créer un cousin éloigné de Cristiano Ronaldo et avoir quand même une vibe de « Ah ouais, ça lui ressemble un peu ». Mais là, pour le coup, avec Stable Diffusion, ça permet de rajouter cette couche de comment j'arrive à finir mes images. Et moi, personnellement, je pense que c'est le futur de créer des campagnes avec des athlètes ou avec des talents at scale. On a tous vu l'épisode de Black Mirror sur Netflix où la personne signe son droit à l'image et derrière ils vont produire les épisodes de la série, elle n'a plus de contrôle sur elle-même, dans un côté un peu moins glauque et dark. Je pense que avoir cette idée de je suis une personnalité, il y a besoin de faire X content pour la promotion du film ou d'une série ou ce genre de choses, je pense qu'aujourd'hui personne apprécie l'exercice d'aller passer une journée ou deux journées sur un set, de voyager pour un shooting. Et côté marque ou studio ou agence, peu importe, de dire en fait, on a juste une journée de content. Et puis après, si on réalise qu'on n'a pas suffisamment de matière pour assurer la promo ou ce genre de choses, on est un petit peu bloqué. Donc ça, c'est des choses très business, mais je pense que c'est, du moins, ça va être une révolution énorme à partir du moment où c'est plus adopté par les marques et les agences.
Ok. Mais donc, ce que tu dis, en fait, c'est qu'aujourd'hui, sur Stable Diffusion, que moi j'utilise beaucoup moins et très peu, hein, parce qu'en effet Midjourney est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, c'est que tu peux avoir des personnages en fait, où tu intègres la tête du personnage et tu peux lui donner toutes les expressions et toutes les mises en scène que tu veux. Exactement. Contrairement donc à Midjourney.
Tu utilises les références de caractères.
Oui, j'allais te demander, c'est ma deuxième question, est-ce que les références, on a parlé à fond de ces refs pour la consistance des personnages, qu'est-ce qu'il en est?
Encore une fois, c'est ouf déjà de voir le fait de pouvoir utiliser ces références. Et je trouve que ça marche très très bien quand tu utilises une personne qui n'est pas connue pour le coup. Tu crées un avatar. La chose sur laquelle les gens buguent quand ils voient de l'AI, c'est le concept de Uncanny Valley. C'est genre tu vois un truc qui a l'air vrai, mais il y a quelques petits détails qui te dérangent dedans. Du coup, comme je disais tout à l'heure, tu prends Cristiano Ronaldo ou Michael Jordan. Tu le fais avec de l'AI CRF sur un accident, sur une sur 100. Tu vas peut-être avoir une image où tu dis genre « wow, c'est chaud ». La majorité des cas, tu as l'impression que c'est son cousin ou moins éloigné.
C'est sûr. J'ai essayé avec moi.
Voilà, tu le fais pour toi-même. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si tu montres une photo où toi, tu t'es mis en ref, les gens… Ah ouais, il y a un petit air. Par contre, si tu as fait une série avec un avatar qui n'existe pas dans la vraie vie, Ce que les gens ont parfois réalisent pas, c'est qu'en fait, bah, tu vois ma tête du matin aujourd'hui, en fonction de où je me positionne, la lumière, l'environnement et ce genre de choses, bah, j'aurais jamais exactement la même tête pour que ce soit bien ou pas, ça dépend de quelle perspective. Et là, en fait, ce qui est fou avec Stable Diffusion, c'est que tu es capable en fait, d'aller définir, si on parle de cette histoire du modèle, mais ça marche aussi pour les vêtements, ça marche pour tout. Et en fait, tu es capable de dire, bah, je vais me concentrer, donc j'utilise mon CRF côté mid-journée, je génère un avatar qui est close enough de mon modèle, et derrière, je vais venir finaliser ce contenu-là avec Stable Diffusion en utilisant encore une fois plus d'images de la personne et en disant, bah, viens me retravailler, viens mettre un masque par-dessus ce visage-là. Et,
tu vas face swapper avec Stable Diffusion.
Exactement, en dernier step. Et du coup, ça, c'est billion dollar ID et référence. Mais en fait, c'est ouf parce que ça permet encore une fois d'amener les choses jusqu'au bout sur la création du contenu et de faire des choses qui sont réalistes pour imaginer demain une application campagne marque en dehors de ce qui a été fait ces deux dernières années, qui était pour moi plus du flex, on va dire intelligence artificielle. Voilà, on est Coca-Cola, on veut dire qu'on a utilisé l'intelligence artificielle, mais en vrai, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est on est Nike et on fait notre prochaine campagne avec LeBron James. C'est produit avec de l'AI, mais personne n'est capable de dire que ça a été fait avec de l'AI, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un sujet qui va vraiment s'essouffler assez rapidement, le côté fait avec de l'AI. Dans l'absolu, du moins, aujourd'hui, personne poste une campagne en disant « fait avec Photoshop » ou du moins, on s'en fout de comment ça a été fait. L'important, c'est est-ce qu'on est capable en tant que créatif d'utiliser ces nouvelles solutions pour produire plus de contenu de meilleure qualité. Et moi, en tout cas, c'est vraiment le message que j'essaye de porter, pas la course vers « on veut faire moins cher, plus vite », mais de se dire « en fait, on peut, en tant que créatif, comme tu le disais toi au début, t'es pas créa à la base ou t'as pas nécessairement tous les skills ». T'es capable maintenant de créer des images. Et en fait, pour moi, bah, les créas, le challenge, c'est de se dire bah, comment je suis capable de level up aussi, parce que si tout le monde est capable de générer des images, il va falloir être capable aussi de ce step up et de justifier sa contribution dans le process créatif, que ce soit en tant qu'artiste ou dans un cadre de collaboration avec une marque.
J'adore ta vision et c'est sûr, quand tu dis c'est billion, voire... many billion dollar company de pouvoir remplacer en fait, mettre toutes les stars que tu veux avec toutes les marques que tu veux dans toutes les scènes, c'est un truc incroyable. En fait là tu me fais des, enfin franchement, mais je me demandais en fait, tu vois, est-ce que c'était une contrainte technique côté mid-journée? À un moment, je me suis dit non, mais c'est parce que tu vois, ils ont peur de qu'il y ait trop de deepfakes, d'avoir des problèmes, tu vois, donc ils bloquent un petit peu le fait de pouvoir faire des personnages, tu vois, à ton effigie ou à l'effigie de quelqu'un. Toi, tu penses que c'est vraiment une contrainte technique à la base?
Oui et non. Alors déjà, pour mid-journée, ça opère comme une black box. En fait, personne sait vraiment. Ils sont quand même très secrets sur ce qu'ils font, donc il y a le côté communautaire et tout ça, mais encore une fois, techniquement, on a accès à rien. On sait qu'aujourd'hui, les modèles mid-journée sont clairement les plus avancés sur le marché, et que là, ils ont atteint un niveau de, au bout d'un moment, améliorer le réalisme, ça a une fin en soi, et comme tu dis, depuis quelques mois, c'est les références de personnages, les références de style, et essayer d'évoluer là-dessus. Alors, est-ce que c'est une question technique? Est-ce que c'est une question stratégique pour eux, justement, pour essayer de se concentrer sur ce que ne fait pas Stable Diffusion aujourd'hui? C'est un peu dur pour moi de donner la réponse. Il faudrait leur poser la question à eux. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a ce qu'il faut dans le workflow pour être capable de travailler entre mid-journée et les autres outils et arriver jusqu'au bout. On sait que Apple est à fond sur les sujets. J'en parlais avec Fred de Fred et Farid, régulièrement on se parle de ces sujets AI et tout ça parce que on voit à quel point ça évolue. Et en fait, c'était assez intéressant de se dire que en vrai, le côté les applications, il faut juste attendre qu'un Apple se mette vraiment sur le sujet pour faire le mid-journée accessible au commun des mortels, du moins à tout le monde. Et je pense que ça va arriver au bout d'un moment.
Et du end-to-end sans avoir à faire l'orchestration d'outils.
Drag and drop des images de référence et puis toute la magie se passera derrière. Est-ce que ça va arriver encore une fois dans un an? Ils n'ont pas été très véloces jusqu'à maintenant sur le sujet. Est-ce que ça va arriver dans 10 ans? Ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. En fait, il va y avoir un moment où il n'y aura pas de valeur ajoutée à se dire bah, « moi, j'ai une secret sauce pour faire des prompts ». Non, en fait, la vraie valeur aujourd'hui, je pense, c'est avoir les références et les bases, en fait. Parce qu'en fait, si tu n'as pas ça, tu ne peux jamais faire des bons prompts. Quand les gens me demandent « Denis, c'est quoi les secrets de tes prompts ?» Ben, en vrai, c'est que mon background fait que j'arrive assez bien à exprimer ce que j'ai dans ma tête pour que derrière, ben, l'IA puisse m'aider à générer des choses. Mais j'ai aussi cette capacité à rebondir sur des choses que je n'avais pas en tête. Et ça aussi, tu vois, alors là, le cadre des samouraïs et tout ça, c'est quand même assez précis, mais il y a plein de moments quand je génère des images, ce que j'ai en tête au début, bah, n'est pas nécessairement ce que la série va voilà, un peu compliqué cette phrase à sortir.
Toute la magie est générative.
Exactement. Et du coup, c'est ça qui est cool. Il y a plein de personnes qui ne le comprennent pas, qui se disent, bah, moi j'arrive, je fais un test sur Midjourney, l'image est nulle, ah bah je suis nul à faire des prompts, du coup j'abandonne. Et ça aussi, c'est un peu dommage.
Beaucoup dit ça. Les mecs qui me disaient ça le plus au début, enfin, ceux que je rencontrais qui venaient à mes meet-ups à Paris, tout ça, c'était les mecs de la 3D. Tu vois, il me disait, moi je maîtrise tout, ça prend des heures, ça tourne pendant 48 heures sur des machines, mais je reviens, tu vois, j'ai exactement au pixel près ce que je voulais. Voilà.
Et je pense que c'est souvent le, on va dire, 3D artiste créatif traditionnel, on va dire, qui n'ont pas utilisé l'AI. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui le groupe qui rejette le plus en masse. Et en fait, ça a du sens parce que ben, quand tu as passé 5 ou 10 ans à apprendre à utiliser des logiciels de 3D, on sait à quel point c'est chaud et que ce n'est pas juste, encore une fois, ben, faut être capable de faire des modèles. Mais après, il y a toute la partie rendu, texture, lighting. Ben, c'est des process où, oui, pour le coup, tu es un peu dégoûté quand tu as passé 10 ans à faire ça et que tu vois l'IA arriver. Et ce n'est pas la même chose encore aujourd'hui. Mais en fait, combien de temps ça va prendre? Et pour moi... je considère que si tu sais bien dessiner, si tu sais faire de la 3D, du moins, tous ces skills-là ne sont pas à mettre à la poubelle. Parce que pour le coup, en fait, ça va te permettre, c'est bah, si tu as un bon illustrateur, tu fais un sketch rapidement, et bah, en fait, tu ne vas pas passer derrière une semaine de plus à faire des tests de rendu, de couleur, de matière, d'upline et ce genre de choses. Pour ton client, ou même pour toi en tant qu'artiste, tu vas être capable de tout de suite générer des choses et te faire des idées. Sur la 3D, c'est la même chose. Les gens, je ne sais pas si tu l'as vu passer mon samouraï cosmonaute. L'ambition, c'est d'en faire une sculpture. Et en fait, ben, ça part d'un sketch, un modèle 3D. Et puis par contre, derrière, ben, je ne vais pas passer une semaine à faire des tests de rendu, de matière, de couleur, d'éclairage et ce genre de choses. Et ben ça, une fois que j'ai cette base-là, ça passe dans Stable Diffusion. J'utilise ControlNet et donc je suis capable de tester différentes choses. Et je l'ai posté en demandant à mon audience, ben, en fait, c'est quel modèle je devrais sortir en premier pour faire de l'engagement, mais aussi parce que c'est méga intéressant de pouvoir donner du choix et me dire, bon, bah, en vrai, tout le monde a l'air très chaud sur la version bronze. Wow. Bah, je devrais aller là parce que c'est ce que veut le marché. Et c'est des choses où les gens ne réalisent pas qu'en vrai, tout devrait fonctionner dans ce sens-là aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est peut-être mon background à moi de marketing digital dans les réseaux sociaux et aider les marques à mieux comprendre ce que veulent leur conso, et en fait, bah, se dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux vraiment le faire, là où avant, bah, si tu passais, comme tu disais, 3 semaines à faire 5 secondes d'animation en 3D, rendu final, bah, tu ne vas pas pouvoir en faire 15 variations pour tester la demande et ce qui marche le mieux dans ta campagne.
Ouais, génial. Ouais, et le cosmonaute, je l'avais vu passer, c'est vrai qu'il est très, très sympa. J'aimerais bien avoir une petite figurine 3D.
Ça va sortir. Mais toi, tu peux aller sur mon site benjaminbenichou.com et j'ai une section qui s'appelle Hard Drop List.
Parfait.
Tu sign up et du coup, toutes les releases qui vont arriver et pour les auditeurs aussi, tu reçois avant-première sur les drops à venir.
Ah, bah voilà, super. Donc, allons tous sur le site. Benjamin, j'ai une autre question. C'est Est-ce que tu connais le business un peu des avatars? Donc, il y a Agen, tu as Synthesia. Moi, j'ai des super potes qui s'appellent Argile, qui font un tabac là-dessus, avec des avatars hyper réalistes. Donc, on n'est pas exactement sur le cas dont tu parlais tout à l'heure avec une personne, une star, une célébrité, un mannequin, et on va utiliser Stable Diffusion et le mettre dans n'importe quelle situation pour n'importe quelle marque, mais donner la possibilité à n'importe qui de s'exprimer. Ces avatars, ils font des trucs de dingue. Maintenant, ils sont même capables de bouger de temps en temps, d'avancer sur des plans séquences. Est-ce que tu as expérimenté un petit peu ces sujets d'avatar? Et
Bah
qu'est-ce que
oui,
tu as?
Agen, je suis fan et du coup, du moins, j'ai testé pas mal dans le cadre notamment de tout le contenu que je suis en train de créer pour ma formation en ligne. Du coup, bah, il y a des choses que je shoote comme ça et il y a quand même des sujets sur lesquels non seulement c'est pas nécessairement ma formation première de faire du contenu et aussi en termes de scale. Pareil, ici, je découvre un nouveau workflow. Au lieu de me dire, bon, bah, il faut que je réfléchisse au shoot, à la lumière, dans le studio, est-ce que je suis rasé, est-ce que tu vois, j'ai le bon t-shirt et ce genre de choses. Me dire que j'ai toujours du backup Agen pour être capable de créer des contenus, je trouve ça hyper intéressant et violent. Et
Ah
je sais pas
ouais.
si tu as vu l'interview, c'est Reid Hoffman qui a posté,
Bien
je crois,
sûr, j'ai
hier.
regardé hier, je l'ai regardé hier.
Et
Excellent.
c'est comme tu dis, c'est bluffant. Tu mets les deux à côté, il y a toujours un truc de ah oui, ok, déjà on t'a dit que c'était de l'IA. Et en plus, tu vois, tu captes un peu. Je suis pote avec la team de Lucky Day, le podcast, je ne sais pas si tu connais. Et pareil, ils font beaucoup de contenu, des reels. Et donc, je parlais à un des founders qui me disait, Benny, qu'est-ce que tu en penses des avatars et tout ça? Moi, je l'ai testé. Je trouve que quand même, tu vois, on capte que ce n'est pas moi et tout ça. Je lui ai dit, tu sais quoi? Toi, normal, tu le regardes toi ou tu le montres à tes amis, tout le monde va dire, il y a un truc chelou, tu ne parles pas comme ça dans la vraie vie. Test, fais un reel. Shoot ton empreinte dans un cadre qui fait très réaliste, naturel et tout ça. Commence pas à être tout rigide dans ta vidéo, sinon ça va être bizarre. Et partage le reel et ne dis surtout pas que c'est fait avec de l'IA. Juste, et après, derrière, tu peux le dévoiler à ton audience. Et en fait, il a posé la question après. La majorité des gens ont dit bah, non, on n'avait pas capté.
Non,
Et
mais c'est
surtout
sûr.
sur les réseaux sociaux, du moins, tu lis les sous-titres, c'est très rare que tu actives le son. Et quand tu vois des clips comme ça qui tournent vite, donc c'était un peu l'expérimentation que du moins,
Ah,
moi j'ai
mais
pas
c'est
fait
sûr.
en moment, mais qui était assez intéressante de voir que l'audience il voit que du feu quand ça passe comme ça.
Non, non, mais c'est super intéressant. Et tu vois, alors, moi, je fais des formations sur l'IA aussi. C'est certain que tu vois de temps en temps, il y a des moments où tu n'as pas envie forcément de te mettre devant la caméra et de t'enregistrer. Alors là, un bon avatar fine-tuné, Agen, là, c'est quand même extraordinaire. En
Tout à
plus,
fait.
si tu l'alimentes avec ChatGPT, alors là, ça va très très vite. Et ensuite, non, mais tu as raison. Et moi, ce que je vois là avec mes copains d'argile, c'est que ça devient complètement indistinguable de la réalité. C'est l'évolution qu'on a eue sur la photo ultra réaliste avec Midjourney, on a la même évolution sur ces avatars. Et moi, ce que me disent même mes potes, tu vois, c'est de se dire, je pense que ça, c'est une vision, tu vois, un peu poussée, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est de dire, dans le futur, les gens vont communiquer avec leur avatar, plutôt qu'envoyer des tweets, plutôt qu'envoyer des WhatsApp, tout ça, tu vois, c'est disparition du texte au profit de l'avatar instantané qui parle à ta place, quoi, tu vois. Et ça me parle aussi, ça, tu vois, enfin, ça me parle.
Bah oui, du moins, je pense que c'est une évolution normale et c'est pareil, ça dépend des contenus, ça dépend de beaucoup de choses, mais de la même manière qu'aujourd'hui, si tu fais un contenu pour les réseaux, il y a quand même plus de chances que tu l'édites sur une application type CapCut ou ce genre de choses, et maintenant, bah, tu as des captions qui vont te faire toute la variation de tes contenus, le sous-titrage, toutes ces choses-là. En fait, c'est juste devenu normal. C'est la manière de faire du contenu. Il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais c'est un peu triché et tout. Bah, en fait, non, c'est toi qui as créé le contenu, c'est toi qui l'as quand même produit, c'est ton avatar. C'est juste que c'est la manière aujourd'hui de faire du contenu. Et je pense que c'est encore, ça fait partie des choses où le nombre de personnes ou le nombre de boîtes qui l'ont adopté, ça reste à la marge avec un
Bien sûr.
potentiel énorme derrière
Énorme.
de gérer tout ça.
Potentiel énorme. Benny, il faut qu'on accélère parce qu'on a trop de sujets passionnants. Il faut qu'on tienne le format et je veux t'entendre absolument sur quelques sujets très importants. Donc, je vais faire plus vite. Donc, mon point d'après, évidemment, je veux avoir ton avis sur Sora. sur Sora, et ton avis à toi, et si tu peux me dire un petit peu, à Los Angeles, tu as la chance d'être à Hollywood, comment ça a été ressenti? Est-ce que ça a été un choc? Est-ce que c'est cool? Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu avais des trucs qui te plaisaient? Enfin, Sora.
Voilà. Bah, oui. Bah, ouais, honnêtement, c'est l'autre tsunami, on va dire, hein, dans le monde de l'AI générative. Parce que quand c'est sorti, là où tu avais ben, des runways, des Pika qui faisaient des trucs sympas, là, on est arrivé sur un truc de... Tain, c'est ouf.
Tellement.
Voilà, on va être capable de faire
un commençais à m'améliorer. Je commençais à m'améliorer sur runway. Je commençais à me
faire
sur
runway,
tu vois. Ça, j'étais avec le motion brush. Et d'un coup, je vois ça, je fais... Ah, ça,
c'est... Tout à fait. Donc ça, c'est fou. Franchement, j'ai hâte de pouvoir tester. D'ailleurs, si n'importe qui peut avoir Early Access ou autre, je suis preneur. Mais j'ai vraiment envie de voir, encore une fois, est-ce que, parce qu'on en a vu beaucoup cette dernière année, de cas où tu as Google ou Alibaba ou tu vois, OpenAI qui font des grosses annonces, qui teasent des choses incroyables. Et en vrai, le modèle est toujours pas accessible. Tu vois, et donc, ça, c'est un petit peu la réserve. C'est-à-dire, je me dis... OK, c'est vraiment impressionnant, mais est-ce que ça va être un cas où, pour le coup, bah, en termes de ressources sur ta machine, en termes de workflow, est-ce que les vidéos incroyables qu'ils nous partagent ont été faites à partir d'un prompt et la majorité des essais te génèrent des trucs de fou, ou est-ce que c'est un peu à la runway, une chance sur 100 de faire quelque chose qui a du sens, tout en sachant que quand tu génères de la vidéo, c'est beaucoup plus long et coûteux en ressources que quand tu génères une image. Donc en fait, ça, c'est un petit peu, voilà, j'attends de tester pour voir. L'impact, alors moi je ne suis pas nécessairement trop plugué ici dans l'entertainment, même si je connais quelques personnes qui bossent soit côté studio, soit sur des shows et tout ça. Clairement, on a vu, y a eu pas mal de manifestations qui ont duré quand même assez longtemps, des protestes côté Hollywood sur toutes les réglementations que les acteurs ou les syndicats essayaient de faire passer. Au final, j'ai l'impression que c'est les studios qui ont quand même gagné le bras de fer. Il y a pas mal de sujets qui tournent en ce moment sur la création d'avatars, de célébrités, pour les mettre dans des studios et tout ça. Donc, je pense que clairement, c'est un sujet qui est ultra polarisant et inquiétant. Disons, inquiétant pour cette partie du business, parce qu'effectivement, il y a tellement de jobs qui sont à risque. Parce que quand on va sur un set pour shooter une série télé ou un clip ou ce genre de choses, il y a énormément d'employés. Je me rappelle plus le nom, mais j'avais découvert qu'il y a un job, en fait, c'est des mecs qui sont juste responsables de mettre du gaffeur sur les câbles, sur les sets, tu vois. Et c'est un job qui est très bien payé. Et pour le coup, le mec, son job, sa responsabilité, c'est le câblage sur le set. Et en fait, toutes ces choses-là, forcément, vont disparaître à partir du moment où je suis capable de shooter tout mon contenu sur un fond vert ou même pas sur un fond vert, avec des gros serveurs, des grosses cartes graphiques, et avoir le réalisateur, potentiellement les acteurs et tout ça dans la pièce, mais énormément de jobs qui risquent de passer à la trappe. Et donc forcément, quand il y a ce type d'impact potentiel sur la société et sur les jobs aux États-Unis, mais je pense qu'on va avoir les mêmes histoires en France et en Europe, il y a des levées de boucliers, mais la question pour moi fondamentale, c'est... En fait, la machine, elle est lancée aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est une bataille qui a même du sens à se mener versus se dire, en fait, c'est maintenant la nouvelle réalité, il faut se reconvertir et il faut changer de direction.
Ouais, bien sûr. On peut penser qu'en ce moment, ou très, très bientôt, on va quand même avoir toutes les stars, tous les acteurs, tous les chanteurs qui vont avoir des modèles de leur visage, de leurs expressions de visage, de leur voix qui vont être entraînés. Et qui pourront aller dans tous les sens après, quoi.
Bah oui, et franchement, on le voit déjà hein, sur le dernier Indiana Jones. Alors, c'est un peu perturbant, mais tu as Harrison Ford jeune dans les premières scènes. J'ai vu un autre film récemment, pas. Donc, en fait, ça arrive et c'est pareil. La question, c'est demain, les célébrités d'aujourd'hui vont avoir leur modèle, mais la possibilité de refaire une série télé sur Le Parrain avec Al Pacino ou Marlon Brando de l'époque, dis-moi, c'est des choses qui sont quand même assez ouf et en vrai, il n'y a pas trop de raison que ce ne soit pas possible d'y arriver. Je suis content de ne pas être trop impliqué dans cette partie du business, mais du coup, c'est assez intéressant de voir comment ça va évoluer et l'impact que ça va avoir aussi pour la créativité de manière générale, parce que aujourd'hui, faire une série, la barrière à l'entrée en termes de budget, elle est énorme. Et en fait, là, maintenant, on va voir, je pense, beaucoup de studios, de plus petits studios, plus petites structures, qui vont être capables de créer des contenus et potentiellement les vendre à Netflix ou à Amazon, là où avant, c'était impossible d'imaginer, ou vraiment des cas à la marge, d'avoir des petites productions qui arrivent à sortir du contenu qui est au niveau d'un studio hollywoodien.
Bien sûr. Alors, Benny, je te bombarde de questions, mais question très importante. Est-ce que tu as une vision, un avis donc, sur le copyright ? Copyright qui est un grand sujet. La propriété intellectuelle. Moi, je pense que ça va être très difficile à régler. Alors, attention, je suis pour qu'on trouve évidemment des clés de répartition là-dessus. Mais je pense que ça va être très compliqué parce qu'au final, ces modèles, ils s'inspirent de tout ce qu'on a mis sur Internet. Quel est ton point de vue, toi, sur ce sujet copyright, propriété intellectuelle?
Oui, c'est une question épineuse. Du coup, je ne suis pas avocat, donc ce n'est aucun conseil validé par mon lawyer. Mais ma perception de la chose, en fait, c'est un peu comme tu le disais, ces modèles aujourd'hui, je pense que la boîte de Pandore a été ouverte et en vrai, tous ces modèles sont self-sufficient. Donc, ils évoluent, ils s'entraînent d'eux-mêmes, donc il n'y a plus besoin d'aller chercher du contenu en plus. Et comme tu dis, aujourd'hui, être capable de remonter dans les modèles de Midjourney, de Stable Diffusion pour retrouver les empreintes de c'est tel artiste ou tel photographe ou telle marque et tout ça, je pense que ce sujet n'est pas pertinent, il n'y a plus la possibilité de le faire. Après, quand on regarde les sujets de copyright, en fait, un truc qui est quand même assez important, c'est que si on oublie de parler de l'intelligence artificielle, si demain je fais une peinture dans le style de Vincent Van Gogh, je n'ai pas un problème de copyright. Je n'ai pas l'estate de Vincent Van Gogh qui peut venir me faire un procès parce que j'ai fait une peinture dans le style d'eux. Et donc, en fait, pour moi, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui avec l'IA. C'est-à-dire que, oui, si je joue avec le feu et que j'essaye, ce qui est en vrai quasiment impossible à faire, j'essaye de refaire exactement le même produit d'une marque où j'intègre leur logo dedans sans demander la permission. Toutes les choses basiques qui existent, AI ou pas AI, je prends un risque. Par contre, je fais une armure de samouraï avec le bleu turquoise Tiffany et des diamants, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un case copywriting possible parce que je n'ai pas recréé un objet ou un produit que la marque Intel a déjà fait. Et donc, je pense que c'est ça, au final, le plus important. Et quand les gens ont l'impression que tu utilises un modèle d'intelligence artificielle, qu'en fait, c'est juste une énorme base de données d'images et ça va ressortir l'image telle quelle, ce n'est pas vrai. Alors, oui, si tu promptes, imagine une pomme, il y a des grandes chances qu'il va sortir une pomme parce que ça existe. Par contre, si tu lui demandes de faire une pomme en porcelaine incrustée de diamants à la pointe du Mont Fuji, il y a très peu de chances en fait, que cette image-là ait existé, ou peut-être, du coup, il faut faire une petite recherche pour vérifier. Et ça, c'est totalement nouveau. C'est l'AI qui a mélangé plusieurs choses ensemble, qui a retiré le bruit dans l'image, et ça a créé quelque chose qui est totalement nouveau. Donc,
très intéressant ce que tu viens de dire, c'est la nouveauté, la créativité, mais surtout la nouveauté sur l'IA. On a eu beaucoup de critiques sur les perroquets stochastiques qui étaient incapables de créer quelque chose de nouveau. Très bon exemple sur ta pomme en porcelaine avec le Mont Fuji. Elle n'a jamais existé, en effet. Mm-hmm.
Et oui, et ça, et moi d'ailleurs, pour le coup, c'est un petit exercice que je fais. C'est-à-dire que quand je crée des images ou des concepts, j'aime bien faire une petite recherche Google pour essayer de voir, encore une fois, déjà, est-ce que le concept en lui-même existe et est-ce qu'il y a des images qui ont été générées où je pourrais me dire, c'est un petit peu borderline. Il y a tel artiste qui l'a déjà fait. Encore une fois, quand je fais un mix, on va dire, avec quelqu'un de connu, je le dis parce que ça m'intéresse, encore une fois, de dire, j'utilise Jeff Koons en référence pour créer une nouvelle sculpture, mais encore une fois, quelque chose que Jeff Koons n'a jamais créé aujourd'hui et plus dans cet exercice de mélanger des références. Mais après, l'espèce de fantasme de beaucoup de gens qui se disent que oui, ça ne fait que prendre du contenu et le sort tel quel. Pareil, on peut faire l'argument qu'aujourd'hui, n'importe quel créa, n'importe quel artiste fait des recherches de références, fait du mood board, fait des sketchs. Du coup, il n'y a pas vraiment de choses où l'idée sort de nulle part parce que j'ai pris un LSD la veille et que je me suis réveillé avec cette vision en moi sans avoir été exposé à rien d'autre autour.
on s'inspire tous de Homère et des premières grandes histoires de l'Iliade, de l'Odyssée.
Exactement.
Ok, super intéressant, Benny. Est-ce que tu as déjà été contacté par des marques qui ont vu ton travail un petit peu et ça t'arrive souvent avec des
marques?
Oui,
régulièrement. C'est très très cool. Donc j'ai fait un projet avec le Paris Saint-Germain sur cette saison qui était top, et un projet qui peut te parler parce que c'est collaboration avec Paris Saint-Germain, crypto.com, et en fait j'ai designé les posters de la Ligue 1 qui ont été générés. On a généré des milliers de posters, et après derrière en fait la communauté a pu sélectionner, et les posters sélectionnés ont été distribués en NFT gratuit qui donne accès à tout un tas d'expériences. Donc, l'histoire était super intéressante, et c'était quelque chose qui, sans l'IA, en termes de volume et de timing, aurait été impossible à gérer. J'ai fait une collaboration avec Coach en Corée, une collaboration avec Rado. Donc, j'ai fait quelques projets comme ça. Je n'ai pas une bande passante illimitée, et du coup, c'est assez sélectif. Et derrière, pas mal de conversations, plus sur le côté corporate training. En fait, soit des conversations... orienter leadership sur essayer de leur faire comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et comment ça peut avoir un impact sur le business. Mais aussi, j'ai eu l'occasion de faire des masterclass avec des équipes créatives de marques ou d'agences pour essayer encore une fois de créer, d'une part, de rassurer, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de craintes aujourd'hui, notamment chez les marques, mais aussi de leur montrer que, un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pas une tentative sur mi-journée et c'est fini. Et c'est pas une masterclass de 2 heures qui fait qu'on devient expert. C'est des centaines d'heures à expérimenter sur le sujet, à tester, à se rater. Et AI ou pas, ça, je pense que c'est quelque chose qui va pas vraiment changer dans le futur.
Bien sûr, bien sûr. Génial. Est-ce que tu connais une agence qui s'appelle Détroit, de Jonathan Gilbert, qui est un copain à moi? Qui est une agence qui met en relation, tu vois, les stars de l'IA générative au niveau créa et des marques comme ça. Donc, Détroit Agency, il est super, Jonathan, je pense.
Je regarderai.
Et il faudrait que vous vous parliez. Il fait un super travail. Trop bien. Benny, donc, une autre petite question, c'est pour finir. Donc, toi, on parle beaucoup d'AGI. Si tu regardes un peu les vidéos avec Reid Hoffman et tout ça, avec Sam Altman, avec Dario Amodei d'Anthropic. Enfin bon, est-ce que toi, l'AGI, est-ce que tu ça te parle? Est-ce que tu vois ça arriver dans les prochaines années?
C'est encore une fois, c'est dur de faire des prédictions. J'ai écouté beaucoup de podcasts quand même sur le sujet. Que je trouve ça assez intéressant, et c'est pareil, même avant de parler de on va dire de l'intelligence artificielle ultime, assez intéressant de comprendre que, en gros, un modèle comme ChatGPT, en fait, c'est nul pendant très longtemps, et puis ils sont arrivés à un moment où ça a été les sets de data qui ont fait passer le cap, et d'un seul coup, c'est devenu le ChatGPT qu'on connaît aujourd'hui. Et en vrai, pareil, l'évolution, même si ça fait beaucoup, je trouve, de headline entre ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4, je ne suis pas sûr qu'on le perçoit nécessairement de trop. Et donc, en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que ça va être une espèce d'évolution linéaire, ou est-ce qu'on va avoir un petit peu un effet similaire? C'est-à-dire que, en vrai, les mecs qui ont créé ces modèles à la base, ils ne savaient pas du tout que ça allait fonctionner de cette manière-là aussi rapidement. Et donc, est-ce que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on va atteindre genre l'autre palier où il y aura suffisamment de data et d'entraînement du modèle que d'un seul coup, ça va cliquer et il va se passer quelque chose. C'est un peu les sujets. Sur les podcasts que j'ai écoutés, il y a les deux visions, quoi. Il y a vraiment des gens qui disent dans 1 an ou 2, ça peut arriver. Il y a d'autres personnes qui disent non, c'est 30 ou 40 ans avant qu'on arrive à cet état-là. Donc, moi, je reste quand même un petit peu... je ne suis pas un expert nécessairement sur ces sujets-là, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. J'ai lu encore une fois un article hier sur le fait que les robots humanoïdes, ça allait être quelque chose de très sérieux sur les 5-10 prochaines années. Donc, en tant que nerd et fan de science-fiction, est-ce que j'ai envie d'imaginer demain que j'ai un robot de maison qui est mon ami avec qui je peux échanger, collaborer, qui peut aller, j'allais dire un truc pas très cool, d'aller chercher mes enfants à l'école, peut-être pas, mais
Ranger les jouets que mes enfants mettent
voilà,
dans
ranger les jouets, l'enfer de tout parent,
le salon.
ranger les jouets, faire la cuisine, bon, tous les trucs que tu n'as pas envie de faire pour pouvoir te concentrer sur ce qui est la valeur d'être un être humain et engagé avec les autres et ce genre de choses. Moi, je suis toujours côté positif hein, des choses, peut-être un peu naïf, mais j'imagine mal un monde où d'un seul coup, voilà, on suit la machine et on ne fait plus rien, mais de dire, il y a quand même plein de tâches, que ce soit dans le business ou dans le perso, qui sont reloues, en vrai, que personne aime faire. Et du coup,
Sûr.
si ces trucs-là, on peut s'en dédouaner tout en gardant le niveau de qualité qu'il faut, bah, je pense que ça va nous permettre de faire plus de choses qui sont importantes en tant qu'être humain.
Génial. Je partage tout à fait cette vision. Moi, je pense que ça peut arriver assez rapidement et que ça peut être en tout cas un changement. Enfin, on vit une époque formidable, hein, selon moi déjà, avec cette IA générative. Benny, la dernière question. Ton livre ou film de science-fiction préféré? Sachant que tu viens de nous confier que tu étais un gros geek, un gros nerd, donc j'espère que tu vas nous sortir un truc sympa.
Ah bah oui, mais c'est dur parce que déjà c'est dur d'en choisir un et c'est dur de pas sortir un truc un peu bateau ou spécial. Mais mon film préféré de tout temps que j'ai vu, je pense, 150 fois et qui ne vieillira jamais, c'est Retour vers le futur. Et ça, je pense que ça
Ah
m'a
oui.
marqué profondément. Il y
Il
a
m'a
une DeLorean derrière moi, tu vois, genre elle est là, elle m'accompagne.
Parfait. Eh
Et ouais, du
oui.
coup, Retour vers le futur numéro 1. En vrai, Terminator, c'est aussi dans le top 10
Terminator
de
2.
mes films. Bah oui,
Terminator
forcément. Ouais.
2. Forcément, bien sûr.
Même si la scène
Génial.
d'arrivée de Terminator 1 est quand même assez ouf.
C'est vrai. Béni, merci beaucoup. Merci pour tout. C'était
Merci à
passionnant.
toi.
C'était un énorme épisode. Bravo pour ce que tu fais. Tout le monde, allez regarder l'Instagram de Benjamin. Benny Drop. Benny underscore drop. Et franchement, c'était trop cool. On va suivre de très très près ce que tu fais. C'est magnifique. Franchement, bravo.
Merci à toi.
Merci Benny. Ciao.
Ciao.